retirer quelque chose de votre brevet, mais vous serez carrément sur la paille. Paille et vous signerez n'importe quoi. Et la grosse compagnie vous dira, bon, de toute façon, on vous a fait une offre plus intéressante en début et vous nous avez répondu, non, c'est merdique, je ne veux pas. Et donc, ils vont à chaque fois tomber sur le dos des petits investisseurs ou des petites sociétés. Je puis vous dire qu'en fait, c'est complètement truqué, le système juridique. Il travaille, au fond, pour les grosses sociétés. Parce que si on vous demande de payer pour votre brevet, vous savez que vous n'aurez pas le choix. C'est soit ça, soit rien. Il faut bien le savoir quand, disons, vous créez des idées. Et donc, c'est vraiment affligeant. Nous n'avons pas la possibilité, disons, de contourner tout cela, mais il va falloir de toute façon essayer de ne pas changer les pratiques actuelles. Et il va falloir essayer de continuer à travailler ainsi. Alors, surtout, essayer de ne pas changer les choses. De toute manière, ça peut marcher comme cela.
Merci, Laura. C'était un appel vibrant et j'aurais aimé que d'autres collègues de la commission parlementaire compétente soient présents pour t'entendre. Oui, quelquefois nous avons aussi l'impression que l'on adopte de nouvelles lois pour donner du travail aux avocats. Mais peut-être qu'on parviendra à me convaincre du contraire. Entre-temps, Hakon nous a rejoint. Bienvenue, Hakon. Bon. Nous avons en fait encore 2 minutes, mais je t'en fais encore deux plus cadeaux, donc 4 minutes pour toi, Hakon.
Thank you very much.
Merci. Je suis arrivé avec un peu de retard, je m'excuse. Alors, je ne suis pas Monsieur Exmark, je suis Monsieur Lead de Opera Software en Norvège. Nous sommes une petite entreprise scandinave, quelques 120 salariés. Nous développons des browsers pour Internet. Nous sommes concurrents de Microsoft et de Netscape. Nous les mettons dans ce type de téléphone-là pour que vous puissiez surfer sur le web à partir d'un téléphone mobile. Nous avons également un système de navigation pour les desktops, Linux, la nouvelle version Windows. Vous procurer tout cela sur www.opera.com. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de brevets. De brevets. Et je trouve que les brevets sont dévastateurs pour mon entreprise. Et cela de deux manières. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est dévastateur pour Opera parce que nous sommes assaillis de lettres d'avocats américains qui prétendent que notre entreprise est incluse parmi un groupe sélectionné parce que un brevet donné semble important dans les travaux de votre entreprise. Donc votre produit relève du brevet. Donc d'abord, ces avocats veulent nous vendre un brevet. La menace étant que si nous ne l'achetons pas, ils nous traduiront en justice. Alors, une foule de lettres du même type nous parviennent tous les jours. Alors, tout d'abord, nous avons besoin de beaucoup de temps pour étudier le brevet en question, pour voir si la lettre est vraie ou bien s'il y a tout simplement quelqu'un qui essaie de nous arnaquer. Soyons clairs. Et toute cette énergie, tout ce temps, nous préférerions le consacrer au développement de nos produits. Le deuxième problème que nous avons avec les brevets, c'est que bon nombre de nos investisseurs aimeraient beaucoup que nous nous procurions des brevets américains. Ils considèrent que c'est un actif. Et je crois qu'ils se trompent. Nous procurer des brevets serait une diversion de nos ressources et de nos énergies. De bons techniciens ne doivent pas faire autre chose que ce pour quoi ils sont payés. Ils ne doivent pas se mettre tout à coup à introduire des demandes de brevets. Les brevets sont quelque chose d'extrêmement compliqué au plan juridique également. Moi, j'ai sur mon bureau des brevets épais comme ce que je vous montre là. Et étudier cela, ça me prend 6 mois de travail. Écrire un brevet, c'est encore plus long. Alors, dans une petite entreprise telle que Opera Software, nous n'avons pas les ressources pour introduire ce type de demande de brevet. Nous n'avons pas l'argent non plus pour recruter les gens capables de le faire. Pour nous, c'est quelque chose de totalement contre-productif. Alors, j'ai encore 20 secondes, je crois. Non, non, ça marche, dit la présidente, ça marche. Donc, nous, nous sommes occupés à inventer, à innover. Et nous voulons que nos innovations trouvent leur chemin vers des produits. Et lorsque nous trouvons quelque chose de vraiment nouveau, nous voulons introduire cela. Par exemple, dans le W3C qui coordonne le développement technique du web. Nous voulons normaliser, standardiser nos technologies pour que tout le monde puisse les utiliser. Nous pensons pour le web et pour le secteur technologique en général, il est meilleur d'avoir des solutions communes. Parce que ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra avoir un meilleur et plus grand marché. Vous savez, je travaillais pour le CERN auparavant et pour W3C, et donc pour le CERN à Genève, où le web a été inventé. Mais si le CERN avait eu une politique de brevetabilité du web, on n'aurait jamais eu le web. On l'aurait jamais eu. Nous n'aurions pas connu la révolution technologique que nous avons connue. Alors, ces résultats ne vous plaisent peut-être pas tous, mais moi, je m'en félicite. Mais en tout cas, ça n'aurait pas marché si le CERN avait breveté tout ce qu'il produisait. Le fait qu'ils aient libéré tout cela, le fait que les États-Unis puissent appliquer ces normes librement, a été un élément essentiel. Donc je crois que passer par des organisations de normalisation et de standardisation fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, W3C publie en permanence des normes, des standards, et s'écarte très très activement de la formule des brevets, justement. Je crois que l'Europe ne doit pas copier le système américain qui mène à l'échec. Un échec avéré. Les Américains ne doivent pas reproduire les erreurs. Les Européens ne doivent pas reproduire les erreurs américaines, pardonnez-moi. Au contraire, et là je m'écarte un petit peu du sujet, je crois que les juristes européens doivent justement essayer d'empêcher Microsoft de se livrer à des pratiques illégales. Parce que ça, c'est notre vrai problème. Et je crois que c'est le vrai problème qui se pose à de nombreuses petites entreprises technologiques européennes. Microsoft fait des choses que les cours et les tribunaux américains ont déclarées illégales. Enfin, ils continuent tout de même. Alors l'Union européenne peut les arrêter. Et moi, j'encourage tous ceux qui sont en mesure de les arrêter de le faire. Merci. Merci, Hakon. Je crois que ce que tu as dit sur Microsoft était très important. Nous l'avions déjà entendu hier et enregistré. Mais s'il y a ici tant de représentants du secteur des logiciels, des représentants des PME, des inventeurs, enfin des représentants de tout le secteur, comme il est si rare de vous avoir tous ensemble ici à Bruxelles, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas adopter une résolution commune lors de la pause café ou lors du déjeuner? Parce qu'il y a une foule de documents qui émanent de chaque petite entreprise, de chaque petit inventeur individuel, mais il n'y a rien de commun. Est-ce qu'il n'est pas temps de rassembler ces forces, justement, contre ceux qui défendent malheureusement trop bien les brevets? Une intervention, je crois, puis je donne la parole à Dany.
My name is
Jean-Michel Pourret, je viens de France, et vous pouvez d'ailleurs parler français, monsieur. Je suis propriétaire, pour ainsi dire, de deux sociétés, l'informatique, et je voudrais quand même souligner un point important. Les grandes sociétés qui ont des brevets voudraient inclure des brevets dans leur comptabilité. Et si on adopte une telle pratique, au bout de 10 ans, on se retrouvera face à des centaines de cas Enron, type Enron. Et on aura une économie complètement pervertie, un capitalisme complètement perverti également.
Well, I just pass to the next panel.
Monsieur Ken, vous voulez parler de là-bas et nous montrer les petites images? Ouais, je vais dire quelques mots simplement. Parfait. Alors, prochain tour. Ten Bakelt. Et Philippe, venez ici pour que ça tourne. Vous commencez et les autres viennent déjà me rejoindre à la tribune. Alors pour introduire ce tour de table qui en fait porte sur l'évaluation de l'impact sur les PME, l'impact des brevets sur les PME, je voudrais faire quelques commentaires en ce qui concerne la situation telle qu'elle se présente aux États-Unis. Je voudrais commencer par présenter le problème en citant un rapport. Un rapporteur du mois de février, responsable pour la propriété intellectuelle, a dit cela. Ça met tout ceci dans un contexte. Eh bien, il en ressort simplement que toutes les sociétés de logiciels sont devenues des PME, pour pas dire des grandes entreprises. Alors, ce constat, on le trouve dans le résumé, pas dans la section économique du rapport. Alors, j'ai parlé aux auteurs de l'étude qui a été faite. Eh bien, ils n'ont pas pu me prouver sur base de documents ce qu'ils soulignent. Donc, c'est là une preuve que je dirais d'ordre anecdotique, qui est connu uniquement par les deux rapporteurs de ce texte. Alors, il y a une confusion, un malentendu. Les PME, c'est quoi finalement? On a une certaine confusion dans notre esprit. On dit petites entreprises, et puis il y a les start-up également. On a tendance à mélanger les deux. C'est pour les États-Unis, bien sûr. Il y a beaucoup de start-up aux États-Unis, et il faut faire une distinction également entre les PME et les sociétés qui échouent, et puis des sociétés de brevetage, des sociétés en fait qui font leur beurre avec des brevets. Ça peut être des petites entreprises. Alors, il y a le mot troll qui vient du norvégien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être ces sociétés vous surprennent en ce sens qu'elles poussent comme des champignons du jour au lendemain, n'est-ce pas? Alors, il y a également des sociétés d'utilisation de la technologie. Ils ne produisent pas la technologie, mais ils l'utilisent. Il y a des cas récents qui nous montrent que des sites souvent sont en fait l'objet d'attaques de la part de ces sociétés. Alors, mes expériences aux États-Unis, les voici. Bon, cette expérience, en fait, est une expérience de 10 ans, consultant en multimédia. Donc, il est clair que les brevets individuels jouent en faveur des trolls, des sociétés en échec. Et qu'en est-il maintenant des start-up? Là, les esprits divergent. Laura Creighton en a déjà parlé. Quelle est la réalité? Dans une technologie complexe comme le logiciel, de manière générale, Dan Cash, William Kingston de Dublin, George, qui sont parfois également présents à l'université, George Mason, eh bien, les brevets n'aident pas les entreprises dans des industries complexes comme le logiciel, parce que ce sont des brevets qui portent sur des éléments partiels. Alors, il y a d'autres brevets, des brevets de méthode, qui peuvent être beaucoup plus précieux, parce qu'ils couvrent pas mal de terrain. Donc, ils dépassent, si vous voulez, certaines applications technologiques. Alors, on a constaté que le marché, en fait, ne reconnaît pas la valeur de ces brevets-là. Lorsqu'on donne ces brevets, le marché, en fait, ne réagit pas positivement. Donc, le marché ne tient pas compte de la valeur intrinsèque de ces brevets Internet. Bien sûr, les différents brevets individuels jouent en défaveur des sociétés. Alors, comment fonctionne le système dans l'ensemble? L'effet du point de vue portefeuille on a affaire à un marché énorme, avec des défis énormes. Les retombées peuvent être énormes. Donc, ça joue en faveur des grandes firmes. Les coûts de transactions très élevés jouent également en faveur des grandes sociétés. Beaucoup d'argent en jeu. Alors, il y a également un autre bénéfice qui découle de l'incertitude. Et l'incertitude joue en leur faveur puisqu'ils sont capables d'absorber le risque. Ensuite, la matière, les normes en matière de brevetabilité, les normes sont très faibles, si elles existent, et jouent donc en faveur des grandes sociétés. Et puis, la force même d'un brevet, en fait, est telle que les non-producteurs ont l'avantage. Donc, ceux-là sont capables de freiner, de bloquer dans leur élan les petites sociétés, mais également les grandes, comme IBM. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Aux États-Unis, bon, les preuves que j'ai citées, bien qu'existant sur papier, sont pour moi des preuves qui relèvent de l'anecdote plus que d'autres choses. Venez me rejoindre à la tribune. Merci. Alors, je voudrais introduire Wai Tang de l'Université de Sussex, Wang Tang, qui va nous donner des données empiriques et concrètes. Bonjour, tout le monde. Je vois que vous avez des visages très sévères en ce qui concerne le brevetage. Eh bien, ce que je vais vous dire, en fait, n'est pas un avis personnel. Je peux en avoir, mais je risque de vous déconcerter en ce sens que je vais vous donner des preuves qui découlent de projets que nous avons faits pour la DG Entreprise fin 2000. Alors, est-ce que quelqu'un peut s'occuper de l'écran là-bas, n'est-ce pas, pour cliquer, pour vous montrer les images? Quelqu'un m'a dit qu'on s'en occuperait. Laurence, non? Merci beaucoup, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, ça s'appelle Europal DAT, PPS, le disque. Parfait, bon, on va trouver. Voilà, alors pour commencer, cette rencontre, un brevet assez ridicule, enfin comment dire, rigolo, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça nous dénote la valeur des brevets. IBM a reçu un brevet récemment, mais depuis la... réfuté, bon, là, en fait rendu à la PTO des États-Unis. Et ce brevet, de quoi s'agit-il? Et c'est un système pour réserver votre toilette lorsque vous êtes dans un avion. Et IBM pense que ce brevet joue dans l'intérêt social parce que c'est en fait dangereux d'attendre debout dans l'avion pour pouvoir aller à la toilette, n'est-ce pas? Alors, il y a un système qui vous permet justement de vous donner un numéro si vous voulez aller à la toilette et vous dit combien de temps il faut attendre. Bon, alors, on a réexaminé peut-être ce brevet et son utilité, mais IBM, dans son humilité qu'on lui connaît, a décidé de retirer sa demande, de le dénoncer, de dire, écoutez, allez, on le donne au public. Ce brevet, de sorte que lorsqu'ils sont dans l'avion ou dans le train, eh bien, ils seront en sécurité. C'est du domaine public. C'est un bon système, puisque à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'être debout en attendant d'aller à la toile. Voilà l'absurde que je veux montrer dans cette affaire. Il y a des millions et des millions de brevets de mauvaise qualité dans le logiciel. C'est vrai également dans le domaine de l'industrie de fabrication de produits, je ne sais pas, vous connaissez peut-être, il y a un brevet pour les clips pour les lunettes de soleil que vous clipez sur sur vos lunettes. Eh bien, depuis très longtemps, ça existe. Eh bien, on a donné un brevet à cause des demandes qui ont été formulées. Autre brevet, une balançoire qui, au lieu d'aller de l'avant vers l'arrière, va d'un côté vers l'autre. Bon, un brevet a été donné. Alors, il y en a pas mal, comme vous le constatez, après les exemples que je vous ai donnés, qui sont complètement ridicules. Alors, je reviens à mon étude. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui est sponsorisé par la DG Entreprise. Comment les PME perçoivent-elles la protection en matière de logiciels? Bon, c'est un problème énorme. La DG Entreprise, en fait, n'a pas donné les moyens pour faire ce travail. Alors, on a ce document-ci en trois langues. Vous savez combien ça coûte en traduction? Et on peut utiliser, bien sûr, les traducteurs de la Commission. Mais pour cela, on a dû chercher nos propres traducteurs, faire traduire cela en trois langues. Ensuite, une publication commerciale a été faite de ce texte. Nous avons réussi à le faire. Pourquoi? Bon, nous sommes des universitaires, n'est-ce pas? On ne nous paye pas. Notre temps ne compte pas. Et voilà. Donc, la DG était très, très, très économe. Cependant, nous avons bien travaillé. Alors, je ne voudrais pas m'inscrire en faux par rapport à Richard Stallman. Le terme de propriété intellectuelle, c'est quoi? Eh bien, la propriété intellectuelle, c'est les droits de propriété intellectuelle. Les droits. Le brevet, la marque déposée, le secret industriel, etc., etc., etc. C'est l'effort intellectuel, la propriété intellectuelle, qui est investi dans la création d'un logiciel, d'un modèle, que sais-je. Donc, il faut faire cette distinction-là, ce distinguo-là. Donc, on peut parler de propriété intellectuelle, mais lorsqu'on parle des différentes formes de protection, il faut être très prudent. Les PME... mettre au point. Ici, on parle de logiciels, donc, et il crée des logiciels, hein, puisqu'on parle ici de ce problème-là. Alors, dans ce contexte, on envoie à peu près 40 à 50 questions sous forme d'un questionnaire. Bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses de la part des PME. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de le faire. Ils nous le disent. Ils disent, on a très peu de temps pour faire des enquêtes, voir où sont les problèmes. Mais nous avons reçu quand même des réponses de 12 PME. 12 PME qui non seulement ont répondu à l'enquête d'une manière détaillée, de surcroît, ils nous ont permis d'aller les voir pour parler avec eux. Parce que l'enquête, en fait, portait sur plusieurs questions. Et ces sociétés de logiciels... étaient des développeurs e-com, services de consultants, inventeurs de logiciels, CAD/CAM, systèmes d'intégration des réseaux pour langue, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Alors, passe à la mèche suivante. Voilà, ceci est vrai. Car ce qu'on entend ici dans cette salle, ce qu'on entend également dans le service de la Commission... Ceci nous montre clairement que c'est quelque chose de très émotionnel. Voilà la situation. Mark Lemley l'a fait. Brian Keynes, vous le connaissez, c'est un professeur, un juriste à Stanford. Non, à Berkeley, pardon, je me trompe. Mais ça a été écrit en 2000 et il a fait référence à ce problème des brevets qui existe depuis très très longtemps et encore aujourd'hui, ça reste du domaine de l'émotionnel. Deuxièmement, Justice Sled, qui est un des tout grands poids lourds dans la justice du Royaume-Uni. Et c'est un juge qui est très raisonnable et je respecte ses arrêts. Et voilà ce qu'il dit, ce juge, à propos des brevets. Le but de l'étude, premièrement, voir comment les PME protègent leur logiciel, produire ensuite une brochure. Les deux grands problèmes, c'était premièrement la méthode de production, comment font-ils? Deuxièmement, pourquoi choisissent-ils une certaine forme de protection? L'impact sur l'innovation également, ensuite. Alors, premier système, alors, une gradation en fonction de l'importance et de l'efficacité. La forme de protection la plus importante, les licences. Deuxièmement, système de protection technique, 24%. Et le troisième moyen de se protéger, c'était le droit d'auteur. Droit d'auteur. Et quatrièmement, la marque déposée, ensuite le brevet, et puis divers. Voilà les différentes façons de se protéger. Les 21% de la troisième solution en importance, donc 21%, la troisième solution, copyright, donc droit d'auteur, ça ne veut pas dire que c'est un moyen de protection peu important. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est important. C'est automatique d'ailleurs le droit d'auteur. Ce qui est important ici, dans ce schéma, c'est que tout le monde est en fait conscient de la vulnérabilité du droit d'auteur. Le droit d'auteur est une protection très faible comparée au brevet. Ce qui ne veut pas dire qu'on va choisir automatiquement le brevet, mais ils savent que le copyright, donc le droit d'auteur, n'est pas une bonne protection. Ce n'est pas étrange. Les chiffres nous montrent que 80% des sociétés interrogées n'ont jamais pensé au brevet. Les raisons ? Les raisons, oui, revenez en arrière. Les raisons de la protection. Pourquoi choisir une protection ? Bon, maintenant, copyright et les brevets. Donc, droit d'auteur et brevets, uniquement ces deux-là. On a demandé donc leur avis en ce qui concerne droit d'auteur. Il y en a qui disent suffisamment de protection grâce au droit d'auteur, 25%. D'autres disent c'est moins compliqué que le brevet, 25% également. Alors, il y en a également qui disent que le droit d'auteur, en fait, n'exige pas d'autres preuves supplémentaires. Donc, ça accélère le processus novateur parce qu'il n'y a pas de preuves supplémentaires à apporter. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis et au Royaume-Uni qui nous montrent que les sociétés, en fait, choisissent deux moyens de protéger leur propriété intellectuelle. Premièrement, le marché. Deuxièmement, la confidentialité. Et voilà, c'est comme ça qu'on procède. Et là, après, interviennent le brevet et le copyright, le droit d'auteur. Alors maintenant, pourquoi choisir droit d'auteur ? Le brevet est trop lent, le processus est trop long, il n'y a pas de garantie en matière de commercialiser du produit, ça coûte très cher. S'il vous plaît, revenez en arrière. Le brevet ne donne pas d'avantage concurrentiel, d'autres méthodes donnent une protection suffisante, et on ne connaît pas trop bien ce système des brevets. Donc, pas de ressources, pas de temps. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh bien, bon, à ce moment-là, vous ne choisissez pas ce processus extrêmement compliqué. Quel brevet ? Lila dit auparavant. Pour les demandes de brevets, eh bien, bon, il avait une pile comme ça devant lui. Alors, essayer de comprendre ce qui se passe, c'est comme essayer de se demander ce qui se passe dans la tête d'un martien. Alors, d'autres pensent que le brevet donne une très bonne avance du point de vue concurrentiel. D'autres pensent également que c'est une meilleure protection. Alors voilà, point suivant. D'autres disent, voilà, nous avons les ressources, donc nous sommes en faveur d'un brevet. Tout ceci se mélange, bien sûr. Vous avez les ressources, l'argent, d'accord. À ce moment-là, vous vous lancez dans une histoire de brevet. On poursuit. Le brevet est une promotion à l'innovation. Ça, c'est important. On parle beaucoup d'innovation. La Commission européenne estime que les brevets jouent en faveur de l'innovation. Ce n'est pas vrai. Les études le montrent. C'est très ambigu. On ne dit pas que c'est une promotion de l'innovation. On ne dit pas le contraire non plus. Ça dépend du secteur. C'est très important. dans l'aviation. Bon, il n'y a pas de brevet dans certains cas, mais bon, par exemple, dans le monde de la médecine, vous avez également des brevets, alors que ça semble parfois bizarre, étrange, n'est-ce pas? Ça dépend du secteur. Même aux États-Unis, les logiciels ne sont pas toujours brevetés, sauf pour les grands, IBM. Ceux qui sont dans le logiciel et dans la production. Donc, dans le brevet et dans la production, ceux-là choisissent le brevet, bien sûr. Mais on ne peut pas dire que le brevet est une promotion à l'innovation. Alors, pour Linux, là, ils disent, bon, ben, ça ne fait pas de tort, ça nous permet un accès rapide sur le marché. Point suivant. J'ai presque terminé. On nous a dit 20 ans, c'est trop. Peut-être 5 ans, alors? Comme Amazon.com, comme ils l'ont proposé, oui ou non? Peu importe. 12? Bon. Ils disent non. Les avis sont partagés, parce que pour eux, en fait... On constate dans tous ces résultats que les brevets, ça ne les intéresse pas. Ils continuent à travailler, le monde va vite, ils essayent de mettre leurs produits sur le marché. Brian m'a dit qu'il fallait que je vous donne quelque chose de concret, parce que vous êtes venu, vous étiez gentil de consacrer un peu de temps à cette discussion. Alors, un autre projet de protection, en gros, je ne vais pas aller dans le détail, mais... les PME, sociétés logicielles, producteurs de produits électroniques, en fait, ne brevettent pas. Mais ils dépendent du copyright, du droit d'auteur. Ils dépendent également de la confiance, qui est très intéressant. Ils dépendent également des niches sur le marché, des créneaux. Et ils dépendent de la mauvaise publicité. Exemple, si je sais que... vous essayez de me faire du mal, point de vue financier, eh bien, aujourd'hui, vous êtes cloué au pilori. Personne ne vous achètera votre produit, n'est-ce pas? Alors, voilà, je tenais simplement à ne pas vous tromper sur la marchandise. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Une dernière conclusion. Et hop. Encore, poussez. Oui, voilà, on y arrive. Pourquoi les producteurs de logiciels estiment-ils que brevet n'est pas une bonne protection? Parce que c'est une technologie cumulative. On continue, c'est comme un Lego, c'est cumulatif et c'est extrêmement rapide. Dernier point. Encore. Plus loin. Voilà, non. Non, juste avant. Voilà, une situation que je soumets à votre réflexion, n'est-ce pas? J'ai commencé avec deux citations, maintenant réfléchissez là-dessus. C'est une citation d'une des sociétés que nous avons interviewées. Ces sociétés venant de chaque coin de l'Union européenne, je vous remercie beaucoup. Je regarde vos visages, n'est-ce pas? Et je me suis dit, je vais leur parler un peu plus que j'avais prévu, parce que vous avez donné l'impression d'avoir voulu entendre ce que j'avais à dire. Mais maintenant, je me tais. Merci beaucoup.
Buckles, who also participe.
Rena Buckles, qui va aborder un autre sujet. Bonjour à tous. On m'a demandé de parler en néerlandais. Je le fais.
Bonjour. Mm-hmm. Bonjour. Je vais attendre quelques instants, le temps que vous chaussiez vos écouteurs. L'étude que nous avons conduite l'a été à la demande du Parlement européen.
Nous l'avons mené au début de l'an dernier et l'avantage que nous avions, c'est qu'il y avait déjà eu toute une série d'études auparavant. Deux études néerlandaises, deux études allemandes, une étude anglaise, plusieurs études de la part de la Commission européenne, une étude française. Je crois qu'il y en a d'autres même, des études françaises. Je ne connais pas d'autres langues que celle-là, mais enfin, beaucoup d'études ont été conduites avant la nôtre. Alors quand on se penche sur les résultats de ces différentes études, dans les grandes lignes, on constate que sur beaucoup, beaucoup de choses, il n'y a pas unanimité. Les avis divergent. De toute manière, on ne peut pas conclure des études qu'il y aurait une nécessité de breveter. Hein. Inutile de vous l'expliquer à vous ici aujourd'hui, mais on le lit encore ici et là. Donc pas de nécessité de breveter à conclure de ces études. Il y a toutefois un certain nombre de choses qui sont parfaitement claires. De toute façon, il y a un problème au niveau de la brevetabilité. Et puis la deuxième chose, les PME. Les PME. Et on en parle justement aujourd'hui. Alors il y a quelques histoires à succès que l'on mentionne toujours. Stack contre Microsoft par exemple. Et il y a énormément de fonctionnaires qui rêvent que les PME pourraient profiter énormément des brevets. Mais ils rêvent. Et très souvent, on lit même qu'il faudrait éduquer les PME. Ah, ça, c'est très paternaliste hein, comme attitude, mais on lit de temps en temps qu'il faudrait éduquer les PME. Alors, après l'orateur précédent, ce n'est pas à moi de vous expliquer comment les choses fonctionnent réellement dans les PME. Et d'ailleurs, les études démontrent bien que, mis à part les quelques histoires à succès, justement, en raison de tous les coûts, il est tout simplement impossible pour les PME d'appliquer convenablement le système des brevets. Alors, je suis juriste de formation et informaticien aussi, mais je ne suis pas économiste. Alors, je voudrais conclure par quelques considérations sur le droit. Je crois que c'est aux parlementaires surtout qu'il faut répéter, encore une fois, que cette directive doit surtout être claire. Claire. Quand on la lit aujourd'hui, elle n'est pas claire. Elle est confuse. Donc, donnez la clarté. Pour l'instant, cette directive ne fait pas la clarté. Récemment, j'ai encore parlé avec quelqu'un de l'Office européen des brevets et il m'a dit, ça ne marche pas, cette directive. On ne peut pas travailler avec. Et si on l'adopte quand même tel quel, il faudra attendre longtemps la jurisprudence de la Cour européenne de justice à Luxembourg. Et ça, ça dure des années. Des années, des années. Et ils ont autre chose à faire là-bas aussi. Enfin, une dernière considération que je n'ai pas encore entendue aujourd'hui. En fait, il y a également des droits fondamentaux, des droits constitutionnels en jeu. Il y a des droits fondamentaux, des droits constitutionnels en jeu dans cette affaire. Parce que, en cas de violation du droit sur les brevets, il y a des sanctions pénales dans la plupart des pays. Or, pour le pénal, il faut des dispositions extrêmement claires.